Vous écoutez RFI Matin, nos dernières minutes ensemble avant de retrouver Juan Gomez, à suivre le sport et puis reportage à Dakar sur les côtes sénégalaises. En marge de la conférence des Nations Unies sur l'océan, on part à la rencontre de celles et ceux qui entretiennent un lien particulier avec l'eau, presque spirituel, vous l'entendrez. Belle journée, bon réveil. Et d'abord, on parle de foot avec vous, Antoine Grenier. Retour sur la performance historique du Sénégal. C'était mardi face à l'Angleterre.
Une victoire 3-1, restée en travers de la gorge de Thomas Tuchel, le sélectionneur anglais, vexé de voir les Lions fêter un simple succès en match amical. Sauf que c'était plus que ça. Jamais en 21 confrontations, les Sri Lions n'avaient perdu face à une sélection africaine. La preuve pour El Hadj Diouf que les équipes du continent n'ont définitivement plus de complexe à nourrir.
On voulait passer un message à nos amis africains, à nos frères, à nos sœurs, comme quoi que tout est possible. Je crois qu'il n'y a plus de complexe entre les nations comme l'Angleterre, la France, l'Allemagne et les pays africains. Je crois que le Maroc l'a montré contre le Brésil, le Sénégal l'a montré contre le Brésil et le Cameroun aussi l'a montré contre le Brésil. Je crois que aujourd'hui, nous, notre rôle, on l'a bien joué. Ma génération et la génération de Samuel, la génération de Roger Milla et tout ça, on a décomplexé nos jeunes frères pour leur dire que tout est possible. Ils peuvent aussi être meilleurs comme eux. Il n'y a plus à les regarder jouer et je peux dire que c'était un régal de voir mes petits frères leur donner une leçon.
El Hadj Diouf dans Radio Foot International avec Annie Gasnier.
Au Togo, déception pour Roger Aoulou.
Le milieu de terrain n'ira pas à la Coupe du Monde des clubs. De retour de blessure, l'international n'est pas retenu dans le groupe des 23 de l'Espérance de Tunis qui ira disputer le mondial aux États-Unis.
En athlétisme, de l'ascension du Mont Cameroun à la chute, deux médaillés de la dernière édition sanctionnés pour dopage.
Disputée le 22 février dernier, la 30e ascension, également appelée course de l'espoir, voit aujourd'hui son vainqueur, Ousseini Hassan, et le 3e de l'épreuve masculine, Abdou Amadou, perdre leur médaille. Les deux coureurs camerounais, récemment sanctionnés par l'agence antidopage du Cameroun, à Yaoundé, les précisions de Joël Wadem.
Après la dernière ascension du Mont Cameroun, les trois premiers athlètes, monsieur et dame, ont été soumis à des tests antidopage. Robert Nzana, président de l'agence antidopage du Cameroun, explique.
Les échantillons ont été envoyés au laboratoire Paris-Saclay, avec qui nous avons des accords. Quelques semaines plus tard, les résultats sont revenus, RAA, c'est-à-dire les résultats d'analyse anormale.
Les résultats ont révélé la présence du tramadol dans les urines d'Ousseini Hassan, le vainqueur de l'épreuve en monsieur. La sentence de l'agence antidopage a été immédiate. La dette de 29 ans sans aucun autre palmarès connu est déchue de son titre et devra rembourser les 10 millions de francs CFA de primes perçues. Il écope également d'une suspension de 4 ans. Le deuxième athlète suspendu pour une durée de 4 ans pour dopage est Abdou Amadou, le troisième de l'épreuve. Il avait préféré fuir le contrôle plutôt que de risquer de voir son prélèvement détecter un produit interdit. Selon l'agence antidopage du Cameroun, les deux athlètes ont encore la possibilité de faire appel de leur condamnation. 600 compétiteurs de 12 pays ont participé à l'édition 2025 de l'ascension du Mont Cameroun. Joël Wadem, Yaoundé, RFI.
Le dopage, un fléau sur tout le continent, Antoine, puisque le Kenyan Bernard Kibetkoetch vient d'être provisoirement suspendu.
Cinquième du 10 000 mètres des JO de Paris, meilleur performeur de tous les temps sur le 10 miles, une distance non olympique. Koetsch est sanctionné par l'unité d'intégrité de l'athlétisme pour utilisation d'une substance slash méthode interdite, une affaire liée au passeport biologique logique de l'athlète.
Enfin, en cyclisme, pas de 7e étape du Tour du Cameroun.
Une chaussée en trop mauvais état égale un peloton à l'arrêt. On passe directement à la 8e étape, 160 km ce jeudi entre Douala et Kribi.
Antoine Grenier pour l'info sport, RFI 9h46 à Nice. Où se poursuit la conférence des Nations Unies sur l'océan, objectif mieux protéger les eaux du monde. Hier, par exemple, une quinzaine de pays ont lancé une coalition pour tenter de stopper l'extinction des raies et des requins. La mer au cœur de la vie de nombreuses communautés du monde. C'est ce qu'on vous fait entendre depuis le début de la semaine sur notre antenne. Paysages, ressources, mais aussi objets de croyance et de foi. C'est le cas au Sénégal où Léa-Lisa Vesteroff a parcouru une partie de la côte et a rencontré ses usagers.
De l'eau jusqu'aux cuisses, brosse et savon à la main, Mustapha lave soigneusement un mouton dans l'eau turquoise de l'océan. un rituel, tout ce qu'il y a de plus banal pour ce pêcheur de 23 ans.
On est en train de préparer la tabaski quoi, la fête du tabaski. Oui, on lave les moutons pour demain. La mer, ça la prothèse, ouais, avec les bactéries et tout.
Mustapha, qui est né et a grandi dans le village de Ngor, a toujours eu la plage pour jardin, la mer pour horizon, l'océan systématiquement là pour accompagner les grandes fêtes.
C'est une forme de tradition, parce que nous, depuis qu'on est tout petit, notre père et notre grand-père, ils sont en train de laver ici, quoi, sur la mer. C'est pour cela que nous, on fait ça, quoi. Des fois, on s'est du lait concentré. Après, on va le mettre sur la mer, quoi.
Pourquoi ?
C'est pour notre grand-père.
Les ancêtres ?
Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est la traditionnelle, quoi.
Laver des moutons, verser du lait ou sacrifier un animal dans la mer pour demander la bénédiction de l'océan, entité sacrée, source de vie et de subsistance pour la communauté Lébou qui peuple les côtes sénégalaises. C'est aussi ce qui explique que la confrérie soufie des Layennes, tournée vers les flots, est née ici, sur la péninsule où se trouve Dakar.
Même en prière, on vous dit, et des fois, si vous êtes en prière quelque part et que vous avez la mer devant vous, tournez-vous vers la mer. C'est l'origine de tout.
Sérignabo est le conservateur d'un des sites où les Layennes viennent se recueillir, une grotte, véritable fente dans la falaise ouverte sur l'océan et dans laquelle on peut descendre.
La grotte fait face à la mer. Le puits où on s'altère se trouve au bord de la mer.
Il confirme ce lien spirituel fort entre le fondateur de la confrérie, Sedina Limamoulay, et la mer.
L'océan est indéniablement un compagnon de notre communauté. Il est né dans un village qui est complètement entouré de l'océan Atlantique. Donc au nord, à l'ouest et au sud. Et il fait partie d'un peuple qu'on appelle le peuple Lébou. Les Lébou, on les appelle les gens de la mer, parce que leur tout, c'est la mer. À part les champs à cultiver, la mer occupe 60 ou 70% de leurs besoins.
Aujourd'hui, les fidèles Layennes continuent de croire et d'espérer que leur mausolée et leur lieu saint, qui bordent l'océan, sont protégés de la montée des eaux, du fait de ce lien très fort qui existe entre leur spiritualité et la mer. Léa Lisa Westerhoff, Dakar, RFI.
Dakar, où il est 7h49. RFI, notre dossier Afrique Économie ce matin avec le démarrage de la campagne du karité en Côte d'Ivoire, 5e producteur mondial. Avec le tout début de la saison des pluies dans le nord du pays, les femmes très actives dans ce domaine sont en plein ramassage. Reportage à Bouna de Bintadiane.
C'est un espace communautaire en périphérie de Bouna. Plusieurs femmes sont accroupies et ramassent des amandes de karité. Il faut aller vite car un troupeau de bœufs dévore les fruits mûrs tombés au pied des arbres de karité, comme l'explique Béninguié Layen.
Je viens ici très tôt, vers 5h30, car ce fruit est prisé par tous les animaux à cause de sa pulpe qui est très sucrée. Il faut être rapide pour le récolter avant eux.
Cette activité attire plus de monde car la précédente campagne a été favorable. En effet, sur les marchés internationaux, les amandes de Côte d'Ivoire étaient montées en flèche l'an dernier après que le Mali et le Burkina ont pris des mesures pour suspendre l'exportation de leurs amandes de karité. Cette hausse a attiré plus de femmes dans la collecte des amandes. En période de récolte, ces travailleuses peuvent gagner jusqu'à 2500 francs CFA par jour. Parmi elles, Kamoussan Bena, cette activité lui permet d'améliorer sa qualité de vie.
L'activité se porte bien. Avant, je ramassais beaucoup d'amandes de karité, mais les prix étaient faibles. Depuis l'an dernier, ça a changé. Je fais des bénéfices. Par exemple, cet argent me sert à scolariser mes enfants.
Une fois récoltées, ces amandes sont ensuite vendues à des coopératives, à l'image de Scoop Prococab, qui regroupe 600 femmes à Bouna. Cette coopérative transforme ce fruit en beurre de karité. La hausse des prix sur les marchés internationaux a été répercutée sur les prix des produits revendus par cette coopérative, comme l'explique Siata Ouattara, la présidente de cette organisation.
Aujourd'hui, la concurrence est rude. On va vendre cher aussi notre amande que nous allons produire. Le kilo qui était à 200 francs, aujourd'hui est à 700 francs. Donc le kilo a triplé. Donc ça a fait qu'aujourd'hui, les amandes le beurre que nous on vendait à 1000 francs, aujourd'hui c'est 2000. Et le kilo qu'on vendait à 1500, 2000, aujourd'hui on est obligé de vendre à 3000.
Cette coopérative réalise l'essentiel de ses bénéfices sur les dérivés du karité, notamment les produits cosmétiques fabriqués à partir des résidus de coques de karité ou encore les briques de tourteau utilisées comme combustible. Bintadiane, de retour de Bouna, RFI.
7h52 à Bouna, tout de suite, musique sur RFI. notre choix musical comme tous les jours sur RFI avant 10h. Et ce matin, vous l'aurez peut-être reconnu, on parle d'un monstre sacré de la pop française avec ce titre intemporel qu'on entend. Bonjour Gilles Ben-Simon.
Bonjour Andréane, bonjour à tous.
Alors, ce monstre sacré, c'est un peu vous, mais c'est aussi, surtout, Michel Polnareff qu'on entend, icône de la chanson française, de retour sur la scène de l'Accor Arena à Paris-Bercy samedi. Michel Polnareff, dont la gloire est grande, mais la discographie plutôt maigre en 60 ans de carrière.
Et oui, hélas, Andréane, c'est dire qu'on peut parler d'événements pour les fans de celui qu'on a surnommé l'Amiral. Un premier album en 1966, une affiche à scandale en 1972, un exil aux États-Unis et surtout des tubes comme s'il en pleuvait avant une éclipse de presque 30 ans. Le parcours est atypique. De Love Me, Please Love Me au Bal des Laz, de Lettre à France à Goodbye Marilou, les classiques de Michel Polnareff sont dans toutes les mémoires. Un succès qui dépasse les frontières, hein, jugé par ses admirateurs, entre autres Jimi Hendrix, les Beatles, les Rolling Stones, David Bowie ou Led Zeppelin, excusez du peu.
Et 7 ans après un album plutôt mal accueilli, faut le dire, le petit dernier intitulé Un temps pour elle a de quoi séduire.
C'est vrai, la critique salue des compositions plutôt fidèles à la griffe Polnareff, mélodies larges et inspirées, sonorité californienne, vocalité caractéristique, le tout sur une production soignée qui signe la réussite de l'album écrit entre Paris et Los Angeles. Serait-ce les 80 printemps de l'artiste ? Des accents mélancoliques, voire nostalgiques, s'en dégagent. Un bémol tout de même, la durée, à peine 8 titres pour 30 minutes de musique. Ici, Villa Cassiopée, un instrumental qui nous rappelle que Michel Polnareff est issu d'une formation classique au Conservatoire de Paris et qu'il a grandi devant un buste du prince des pianistes, Frédéric Chopin.
Cassiopée qu'on entend ici, extrait du nouveau Michel Polnareff. La création de l'album ne s'est pas faite sans difficulté, hein, Gilles.
Oui, de l'aveu même de l'auteur qui dit avoir connu le syndrome de la page blanche, je cite, une épreuve difficile. Au final, 4 chansons et 4 instrumentaux qui donnent à l'ensemble une texture marbrée. Une mention spéciale pour la voix, relativement bien préservée. On retrouve ce timbre aérien toujours apte à monter en tessiture.
Un nouvel album donc pour Michel Polnareff et l'actualité, Gilles Ben-Simon, c'est aussi une tournée.
Absolument, avec une vingtaine de dates un peu partout en France, 60 ans de carrière revisitée pour en arriver au nouvel opus qui va du piano aux arrangements symphoniques de Tu ne m'entends pas, un titre qui renoue un peu avec l'esprit lyrique des Lettres à France et Goodbye Marilou, ici et maintenant.
Je voudrais seulement te dire que je veux te voir sourire. Je n'ai pas plus à te dire que je t'aime et te désire. Trop fort dès que le son nous emporte, tu ne m'entends pas.
un sourire.
Merci à vous, Gilles Ben Simon, d'être venu nous parler de ce dernier album de Michel Polnareff. C'était notre choix musical. Merci beaucoup, belle journée à vous. Et c'est ainsi que se termine RFI Matin. C'était un plaisir, comme chaque jour. Plaisir aussi d'avoir partagé ces 3 heures avec Christophe Pernet à la réalisation. Demain, vous serez avec Julien Coquelrand, MD, 5h temps universel. Moi, je vous retrouve lundi pour une nouvelle semaine d'infos. Et je vous laisse avec Juan Gomez. Bonjour, Juan.
Bonjour, Andréane Mellard. Bonjour à toutes et à tous.
La Guinée et son recensement de la population au programme.
Oui, indispensable pour constituer le fichier électoral. Les opérations de recensement se déroulent en ce moment. Elles rencontrent de nombreux problèmes d'organisation. Par endroits, il manque des kits de recensement. Dans certaines régions, les agents recenseurs sont en grève. Des citoyens dénoncent les difficultés à obtenir un acte de naissance pourtant obligatoire. Vous avez la parole ce matin. Vos témoignages nous intéressent. 33 9 693 693 70. Dans une minute, le journal.
Priorité santé.
Raphaël Constant vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Aujourd'hui,
l'albinisme, une maladie rare, héréditaire et non transmissible.
Demain,
émission Questions de femmes, comment lutter contre la sédentarité.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Sono Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
Pourquoi RFI dit ça ? Juliette Rangeval.
Comment raconter les océans ? À l'occasion de la conférence de l'ONU à Nice, comment parler du vivant si fragile ? Comment décrypter les enjeux scientifiques, économiques et politiques de cette conférence ? Nous en parlons avec Caroline Lachowski et Simon Rosé.
Écoutez « Pourquoi RFI dit ça ?» avec Juliette Rangeval. Tous les vendredis à 19h41 et en podcast sur rfi.fr.